Faire via GAB, le service d'envoi d'argent vers le guichet automatique pour un retrait sans carte, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Édouard Dupenoit.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus. Appel sur l'actualité, on est ensemble jusqu'à 9h en temps universel. Pour parler avec vous, auditeurs, auditrices de RFI, des délestages électriques, des galères qu'ils engendrent au quotidien et des solutions que vous aimeriez voir mettre en place, qui vous paraissent pertinentes, la manière dont on peut éviter ou en tout cas réduire les impacts et les conséquences de ces pannes de courant à répétition. Vous nous appelez au 33 9 693 693 70. Vous nous avez écrit aussi sur notre page Facebook, sur le numéro WhatsApp de l'émission que je vous redonne, le 33 6 89 28 53 64. De tout cela, on parle dans une demi-heure. Avant cela, on répond aux questions que vous vous posez sur l'actualité. Et on commence ce matin par parler de Mayotte. On en parle avec Aruna qui nous appelle du Sénégal à Kédougou. Bonjour Aruna.
Bonjour Edouard Dupermet, bonjour à tous les éditeurs d'Appel sur l'actualité.
Soyez le bienvenu sur l'antenne de la Radio Mondiale, on écoute votre question.
Merci. Alors, une nouvelle opération a été lancée à Mayotte pour lutter contre la délinquance et les habitations anarchiques. J'aimerais savoir pourquoi avoir lancé une nouvelle opération après Wambushu réalisée l'année dernière.
On va commencer par la première partie de cette question que vous avez justement, vous parlez justement de cette nouvelle opération après l'opération Wambushu, puisque on a parlé un peu hâtivement de l'opération Wambushu 2. Elle s'appelle en fait, c'est en fait une opération Place Net dont on parle avec Pierre Olivier. Bonjour Pierre.
Bonjour Edouard, bonjour Aruna.
Alors Wambushu, il y a un an, ça voulait dire reprendre en main en maorais. La promesse de cette reprise en main de Wambushu n'a pas vraiment été tenue, d'où cette deuxième opération.
Eh oui, non, pas vraiment. Wambushu devait agir sur trois axes principaux et aucun des trois n'a vraiment atteint ses objectifs. D'abord, il y avait la lutte contre l'habitat indigne. C'est à Mayotte, 101e département français, que se trouve par exemple le plus grand bidonville d'Europe, celui de Kaweni, près de la capitale Mamoudzou. Des cabanes en tôle qu'on appelle des bangas et qui s'amoncellent de façon anarchique. Wambushu avait pour objectif de détruire 1000 de ces bangas sur l'ensemble de l'île. Et résultat des courses, seuls 700 ont été démantelés. Deuxième axe de Wambushu, la lutte contre l'immigration irrégulière. L'opération devait permettre la reconduite à la frontière de milliers d'étrangers en situation irrégulière, notamment vers les Comores voisines. Mais pour des raisons politiques, le gouvernement comorien avait à l'époque refusé d'accueillir ces ressortissants expulsés de Mayotte, mettant un vrai coup de frein à l'opération. Conséquence, il y a eu moins d'expulsions en 2023, l'année de Wambushu, qu'en 2022. Enfin, troisième axe, la lutte contre l'insécurité. Là encore, bilan contrasté de Wambushu, puisqu'après le départ des renforts policiers venus de métropole, eh bien, les habitants disent être à nouveau confrontés quotidiennement à la violence et aux affrontements entre gangs rivaux.
Les autorités françaises ont d'ailleurs affiché un objectif assez clair, plusieurs ministres expliquant que 60 personnes désignées comme des têtes de réseau ou des têtes de gang avaient été identifiées en amont et qu'il s'agissait de les interpeller pour cette opération. Opération Place Net, Olivier, donc, dont le but c'est de poursuivre ce qui avait été commencé il y a un an.
Et cette nouvelle opération vise maintenant à détruire 1300 bangas un peu partout sur l'île. Concernant la lutte contre l'immigration illégale, jugée responsable de l'insécurité, eh bien Place Net a pour mission de s'attaquer en priorité au réseau de passeurs, car en plus des Comores, les foyers de départ des migrants se sont désormais déplacés vers l'Est et la région des Grands Lacs, en Afrique, RDC, Burundi, Rwanda. La route migratoire vers Mayotte étant jugée moins risquée par les passeurs que les voies habituelles vers la Méditerranée. C'est donc contre ces réseaux que l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants, associé à l'opération Place Net, entend lutter. Et puis, dernier volet, ça se passe sur la mer. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a promis un rideau de fer maritime pour mieux contrer l'arrivée des Kwassa Kwassa. Ce sont ces embarcations légères utilisées par les passeurs pour accoster sur Mayotte et y débarquer les migrants. Mais problème, ce rideau de fer ne comptera aucun moyen militaire nouveau, mais s'appuiera sur un dispositif déjà existant de balayage satellite et radar de la zone maritime autour de Mayotte. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Maorais déplorent un manque de moyens mis en œuvre.
Et justement, à propos de ces critiques, Aruna, il y avait une deuxième partie à votre question.
Justement, pourquoi les habitants critiquent cette nouvelle intervention ?
Oui, elles sont vives, ces critiques, effectivement, Haruna. Pourquoi, Pierre ?
Alors, Haruna, parce que, comme dit le dicton, chat échaudé craint l'eau froide. Et les Mahorais n'ont pas franchement vu d'amélioration après Wambushu. Le nombre de migrants qui arrivent quotidiennement sur l'archipel étant toujours très élevé. Et puis, l'autre sujet qui a laissé un goût amer à la population, c'est la délinquance. Les forces vives, un mouvement de contestation contre l'insécurité, dénoncent même une violence en hausse depuis l'opération Wambushu, car selon les membres de Force Vivre, eh bien après des semaines de présence policière et militaire renforcée, les bandes rivales ont appris à s'organiser et à se mettre en ordre de bataille. D'après de nombreux Mahorais, depuis Wambushu, jamais la violence n'a atteint de tels sommets. Les habitants sont donc assez sceptiques sur l'efficacité de Place Nette. En tout cas, on en saura plus dans 11 semaines, date de la fin prévue de l'opération.
Ça nous emmène à la fin du mois de juin, début du mois de juillet. Merci beaucoup Pierre-Olivier, journaliste au service France de RFI. Et merci Haruna de nous avoir appelé, de nous avoir soumis votre question depuis Kédougou, au Sénégal. On appelle maintenant Claude qui nous attend à Yaoundé, capitale camerounaise. Bonjour Claude.
Bonjour Edouard, bonjour aux auditeurs RFI.
Vous avez une question sur de grands moments de football qu'on a pu voir ces derniers jours sur les prés. On vous écoute.
Oui, j'avais une préoccupation concernant le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a réussi à se qualifier en demi-finale face au club Barcelone. Les deux buts de Kylian Mbappé, la star parisienne, sont-ils un signe de fin de tension avec Luis Enrique ?
Alors, on va commencer par répondre à cette première partie de la question. Et Baptiste Leduc du service des sports est avec nous en studio. Bonjour Baptiste.
Bonjour Edouard, bonjour Claude et bonjour à tous.
Deux buts signés de Kylian Mbappé, c'est donc la fin des tensions avec l'entraîneur ?
Plus précisément, on pourrait dire que ces deux buts de Kylian Mbappé sont le résultat de la fin des tensions avec Luis Enrique, puisque les signes du rapprochement entre les deux hommes, on pouvait les voir déjà avant. Mbappé était mécontent de son temps de jeu depuis l'annonce de son départ du PSG. Il jouait moins, se retrouvait souvent sur le banc. Face à Barcelone, il a disputé les 90 minutes du match aller, malgré une prestation décevante, et il n'est pas sorti non plus pendant le match retour. Alors on l'a vu, au moment qui compte, Luis Enrique a réaffirmé la confiance qu'il avait dans son joueur. Mbappé avait à cœur de la rendre sur le terrain. Et ce rapprochement avec Enrique, on le voit aussi par la position de Mbappé dans le 11 parisien à Paris. Le Bondinois a souvent navigué entre l'axe et l'aile de l'attaque parisienne, avec une efficacité toujours fluctuante. Mais ces derniers temps, c'est en pointe qu'il veut s'installer et Luis Enrique l'a bien compris. Alors on ne sait pas si c'est l'amour fou en interne entre les deux hommes, mais au moins sportivement, ils ont fini par s'aligner. Résultat, on a un Kylian Mbappé surmotivé qui a multiplié les efforts mardi contre le FC Barcelone et il a été récompensé par un doublé.
Et on l'a beaucoup entendu dans les déclarations de plusieurs joueurs parisiens dans les zones mixtes ou en conférence de presse. Luis Enrique insiste beaucoup sur la tactique et sur le mental de ses joueurs, plus Exactement. Que sur le fait de compter sur un seul homme. Claude, vous aviez une deuxième partie de votre question sur la défaite des Blaugrana.
Comment expliquer que le Barça est aussi vite craqué ?
Baptiste, c'était facile, cette victoire parisienne ?
Alors, le score est flatteur, 4-1, mais ça a été loin d'être facile, même si ça l'a semblé. Le Paris Saint-Germain s'est tout de même employé pendant ce match retour et les Parisiens ont tremblé aussi. L'explication de la déroute du Barça, on la retrouve quand même dans l'expulsion du défenseur Araujo à la 29e minute. Une expulsion jugée assez sévère par de nombreux observateurs. À ce moment-là du match, le Barça mène 1-0, 4-2 au cumulé des deux matchs. Et surtout, ils sont les plus entreprenants dans cette rencontre. Après le match, Xavi, l'entraîneur des Catalans, lui-même expulsé pour de trop vives contestations, l'a affirmé à 11 contre 11, son équipe était la meilleure et sans ce carton rouge d'Araujo, elle se serait qualifiée, il en est sûr. Alors évidemment, c'est impossible à savoir, mais ce qui est clair, c'est que cette expulsion a sonné le début de la fin pour le Barça. 10 minutes plus tard, Ousmane Dembélé égalisait, un partout. Puis les Blaugrana commençaient à montrer des signes d'agacement. Xavi donc le premier. Et enfin, après une deuxième mi-temps cauchemardesque pour les Barcelonais, ils subissaient sans cesse les assauts parisiens et finissaient éliminés.
Et puis Claude, vous souhaitiez aussi qu'on se projette un peu dans le futur.
Le Paris Saint-Germain croise en finale le club allemand du Borussia. Peut-on avoir les chances du Paris ?
Alors c'est vrai, le Paris Saint-Germain affrontera le Borussia Dortmund. Retrouvailles, Baptiste, est-ce que les Parisiens ont leur chance ?
Ah bah oui, cette fois la réponse est assez simple. Oui, les Parisiens ont leur chance, ils sont même désignés favoris de cette demi-finale. Alors attention, les Allemands ne sont pas non plus là par hasard. Ils ont quand même éliminé en quart le toujours redoutable Atlético de Madrid. Après une double confrontation dantesque en quart de finale, 5 buts à 4 au cumulé des deux matchs. Les jaunes et noirs ont bien l'intention de bousculer les Parisiens avec leur fougue et surtout leurs joueurs offensifs de talent qui font une très très bonne saison. On pense à Julian Brandt, Niklas Füllkrug et peut-être le champion d'Afrique ivoirien Sébastien Haller, s'il se remet assez vite de sa blessure à la cheville bien évidemment. Alors certes, il vaut mieux tomber sur la route de Dortmund que celle du Real Madrid, mais la dernière confrontation entre Parisiens et Borussen en phase finale de Ligue des Champions avait souri au Paris Saint-Germain, donc il y a un motif d'espoir, c'était en 2020. Mbappé et ses coéquipiers étaient venus à bout de Dortmund et avaient échoué seulement en finale cette année-là. Alors confiance, mais prudence tout de même.
Claude, est-ce que l'on a répondu à vos questions ?
Tout à fait, Edouard.
Merci de nous avoir, merci de nous avoir appelé de Yaoundé. Merci à Baptiste Leduc, journaliste au service des sports de RFI, d'être venu vous répondre. De Yaoundé, on passe à N'Djamena, capitale du Tchad. C'est Sylvestre qui est en ligne avec nous. Bonjour Sylvestre.
Ouais, bonjour Edouard, bonjour aux auditeurs.
On écoute votre question.
Ouais, le président des transitions, Mahamadou Idriss Déby, et son premier ministre, Dr Succé Massa, ont lancé leur campagne à l'élection présidentielle. Edouard, j'ai deux préoccupations majeures. Comment l'ancien opposant Succé Massa compte-t-il se différencier, sachant qu'il est le premier ministre du président des transitions ?
Effectivement, il y a beaucoup d'éléments dans votre question. Vous parlez de Succé Massa comme d'un ancien opposant et désormais premier ministre. Alors, pour vous répondre, on a besoin de l'expertise de Remadji Wainati. Bonjour, monsieur.
Bonjour, Edouard.
Vous êtes anthropologue et chercheur à l'Institut d'études et de sécurité. En ligne avec nous, vous allez tenter de répondre à la question de Sylvestre. Comment un ancien opposant, mais aujourd'hui devenu Premier ministre, peut essayer de se différencier du président de la transition, Mahamat Idriss Déby, pour cette campagne ?
Effectivement, Edouard, un président et son premier ministre, donc tous deux candidats, alors que toujours en fonction, c'est assez inédit comme situation, aussi bien au Tchad qu'ailleurs. Et ils sont donc tous les deux en principe comptables de l'action gouvernementale, et ceci pourrait rendre difficile le positionnement de l'un vis-à-vis de l'autre, notamment le positionnement du premier ministre de la transition, qui, dans un passé très récent, a été l'un des opposants les plus radicaux donc à la transition. Au Tchad, vous savez, la survie quotidienne et l'accès aux services de base restent les défis majeurs des populations. Et ces derniers mois, par exemple, l'augmentation du prix du carburant, qui a un très fort effet domino sur la cherté de vie, est vue par l'opinion publique comme une responsabilité justement partagée de ceux qui sont au pouvoir, c'est-à-dire le président et son premier ministre. Mais en même temps, pour se différencier, le premier ministre en fait peut capitaliser sur le passif du système dont Mahamat Idriss Déby est aujourd'hui en même temps l'héritier et le dépositaire. En trois décennies, ce système a été très peu à même de répondre aux besoins des Tchadiens et d'améliorer leurs conditions de vie.
C'est ce qu'il
et
compte
sous
faire.
Cette transition, cette tendance semble s'être renforcée.
C'est ce qu'il compte faire d'ailleurs. On a entendu, vous avez peut-être entendu l'entretien qu'il accordait à RFI et à France 24 ce matin, où Succé Massa parle plus des retards que le Tchad a pris ces dernières décennies. On a l'impression qu'il essaye d'éviter le bilan pour l'instant des 3 ans de transition depuis la mort de Feu Idriss Déby.
Effectivement, je pense que en tant que Premier ministre actuel donc, et dans une certaine mesure copilote au pouvoir, comme il aime à le dire, je pense que tabler sur le simple bilan de la transition le rendrait tout aussi coupable et comptable en fait des difficultés que cette transition a rencontrées, notamment ces derniers mois. Donc c'est pourquoi sa stratégie de campagne va donc résider principalement, comme je l'ai dit, à proposer un ensemble de mesures qu'il verrait correctif donc des manquements du système MPS, mettant par exemple en avant une approche de gouvernance qu'il définit comme proche des populations et de leurs besoins pour répondre à leurs défis du quotidien. Et les thématiques comme la justice, l'égalité ou l'équité, ainsi que la réconciliation, sont au centre de ce programme Mais avec des moyens plus limités que le camp d'en face, je pense justement qu'il table plutôt sur une campagne de proximité, attaquant notamment cette campagne par les partis centre et septentrional du pays.
Remadji Wainati, je me permets de prendre dans ma voix la deuxième partie de la question de Sylvestre parce que le temps nous presse un peu. On a entendu cette stratégie de proximité et de table rase de trois décennies dont vous nous parlez pour la stratégie de succès Masra. À l'inverse, quelle peut être la stratégie de campagne de l'actuel président de la transition, Mahamat Idriss Déby?
Effectivement, donc Mahamat Idriss Déby et son parti, ainsi que la coalition pour un Tchad uni, donc qui porte sa candidature, table plutôt sur une approche en fait pratiquement de raz de marée et de matraquage intense, avec des moyens de communication colossaux, comme on a vu dès le lancement de cette campagne. Et mettant aussi en avant une certitude en fait de gagner, qu'aujourd'hui les discours ne cachent plus. En termes de contenu, on voit que les thématiques ne sont pas très différentes, malheureusement, car c'est à nouveau des questions comme la stabilité qui ont été au centre de cette transition, présentant le système donc comme seul capable de garantir la stabilité, l'unité du pays, revenant aussi vers des thématiques comme une meilleure gouvernance et des investissements donc sociaux dans les secteurs prioritaires comme l'eau, promis, ABC, etc.
Remadji Wainati, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Sylvestre. Notre auditeur qui nous appelait de la capitale tchadienne, je rappelle que vous êtes anthropologue et chercheur à l'Institut d'études et de sécurité. La dernière question de cette première partie nous vient de la capitale guinéenne, Conakry. C'est Alpha qui est en ligne avec nous. Bonjour Alpha.
Bonjour.
Soyez le bienvenu, on écoute votre question.
Bonjour à la RFI et bonjour à tous les auditeurs de la Guinée-Conakry. Et ma question est la suivante. Le gouvernement a finalement exclu de recourir à une centrale thermique flottante pour compenser le manque d'électricité.
Pourquoi justement le gouvernement a-t-il renoncé à ce projet de centrale thermique flottante qui devait permettre d'alléger un peu les lourds délestages électriques que connaît particulièrement Conakry? Moussa Koulibaly est en ligne avec nous pour vous répondre. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour Edouard.
Le titre de l'ouvrage que vous avez publié chez L'Harmattan il y a 2 ans semble tout indiquer. Au cœur de la bataille énergétique de Guinée, état des lieux et perspectives. Alors, que peut-on répondre à Alpha qui se demande pourquoi le projet de centrale thermique flottante envisagée a été abandonné?
Tout d'abord, en Guinée, le secteur de l'électricité est confronté à plusieurs défis, notamment l'accès universel, la fiabilité du réseau électrique, la production suffisante pour répondre à la demande croissante, estimée à 15% par an, mais aussi l'amélioration de la performance et la gouvernance du secteur. En effet, la centrale flottante n'est pas une nouveauté en Guinée, car en décembre 2019, un contrat d'achat d'électricité a été signé entre Capowaship et le gouvernement guinéen pour la fourniture de 115 MW. La production commerciale a commencé en février 2020. Finalement, cette collaboration a pris fin en avril 2023, date à laquelle le bateau est parti de Conakry, lorsque les autorités ont annoncé qu'il n'avait plus besoin des services de cette centrale électrique.
Sauf qu'entre-temps, il y a eu le gigantesque incendie au dépôt de carburant de Kaloum qui est venu rebattre les cartes. Et on a pu penser, notamment en suivant les déclarations du Premier ministre Baouri, qu'elle allait revenir jeter l'ancre en face du port de Conakry. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas?
Oui, comme je disais, la suite a prouvé le contraire, car à peine 10 mois après le départ du bateau, une centrale électrique de 250 MW de la même société KPS est sollicitée, soit le double de l'ancienne. Et cela pour répondre à un déficit de production chronique du système d'environ 300 MW. Alors, ce qu'il faut comprendre d'un contrat d'achat, comme le Premier ministre l'a annoncé, le contrat regroupe les acteurs principaux, notamment l'acheteur et le vendeur, et le prix de vente de l'électricité, également la durée du contrat. Donc, après plusieurs jours de tractation entre le gouvernement guinéen et le propriétaire du bateau, KPS, finalement, cette solution est finalement abandonnée suite à des mésententes d'ordre financier, mais aussi liées à la durée du contrat.
Mais donc, alors, il faut rappeler... Moussa Koulibaly, je suis obligé de vous presser un petit peu, malheureusement, à cause de l'horloge. Ça ne résout pas le problème de fond des délestages. Comment est-ce que les autorités de transition à Conakry tentent ou vont essayer de tenter de mettre fin à ces problèmes récurrents de délestage électrique?
Alors, de nos jours, la solution envisagée par les autorités est de recourir à l'importation de l'électricité via les lignes d'interconnexion internationales, notamment le projet CLSG et celui de l'ONVG. À date, le gouvernement guinéen a envoyé plusieurs émissaires, notamment en Côte d'Ivoire et au Sénégal, pour des négociations de contrats d'achat d'électricité.
Effectivement, la Côte d'Ivoire pourrait monter jusqu'à 25 mégawatts électriques fournis à la Guinée. Je regrette vraiment de devoir vous interrompre, Moussa Koulibaly, consultant, ingénieur et auteur au cœur de la bataille énergétique en Guinée. Merci d'avoir pris quelques minutes pour répondre aux questions d'Alpha à Conakry. Merci de votre fidélité. L'actualité africaine dans une poignée de secondes. Et puis le débat d'appel sur l'actualité.